Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron promet 8 milliards d'euros à l'industrie automobile pour surmonter la crise. Le président veut accélérer le développement de la voiture électrique. Paris risqué, nous expliquera Hakim Kasmi dans un instant. Agnès Buzyn reste candidate à la mairie de Paris. Malgré ses critiques sur le maintien du premier tour des municipales, l'ancienne ministre de la Santé refuse de jeter l'éponge. L'analyse de Stéphane Robert. La Suède frappée de plein fouet par la Covid-19, plus de 4000 morts, bien plus que chez ses voisins scandinaves. Le gouvernement suédois a refusé de confiner sa population. Frédéric Faux nous appellera de Stockholm. Une initiative franco-allemande pour la réouverture rapide des frontières intérieures de l'UE. Elle émane du président de l'Assemblée et de son homologue du Bundestag. Le décryptage de Bertrand Galichet. Emmanuel Macron a choisi Étaples dans le Pas-de-Calais pour dévoiler son plan de relance de l'industrie automobile. Il s'est exprimé tout à l'heure depuis une usine de l'équipementier Valeo. Le président défend un soutien massif à la filière, plus de 8 milliards d'euros. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de l'État.
Ce qu'il nous faut réussir à faire, c'est que nos concitoyens achètent davantage de véhicules dans les semaines à venir, et en particulier davantage de véhicules propres. Pas dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans, maintenant. Tout renouvellement du parc de véhicules est bon écologiquement. À chaque fois qu'un de nos concitoyens change un vieux véhicule essence ou un vieux diesel pour un véhicule neuf, diesel, essence, hybride et encore mieux, électrique, nous réduisons nos émissions. Et nous nous mettons en situation de respecter nos objectifs, ce qui montre qu'on peut réconcilier l'objectif écologique et l'objectif économique.
Emmanuel Macron depuis l'usine Valeo d'Étaples près du Touquet. Nous sommes en ligne avec Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Hakim, vous avez suivi le discours du chef de l'État, la voiture électrique devient une priorité présidentielle.
Oui, effectivement, avec plus de 400 000 véhicules bloqués chez les concessionnaires et dans les usines, la priorité du gouvernement pour relancer le marché qui a baissé de 90% en avril, eh bien, passera par l'électrique, avec notamment une prime de 7 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique et de 3 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique d'occasion ou neuf. On le voit là, le gouvernement n'aide pas que les concessionnaires et les constructeurs, il va aussi aider les PME avec une aide de 200 millions d'euros afin que ces derniers puissent se moderniser et avoir des outils plus productifs avec ce qu'on appelle notamment l'usine 4.0 pour être plus compétitif. Enfin, le gouvernement confirme son projet d'Airbus de la batterie pour 690 millions d'euros. Jusque-là, Renault, qui boudait ce projet, eh bien, est sommé de rejoindre PSA et Saft, filiale de Total, dans ce projet, sans quoi Emmanuel Macron a prévenu, il n'aura pas son prêt garanti de 5 milliards d'euros.
Hakim, malgré les efforts des constructeurs pour développer l'offre, la voiture électrique reste un marché de niche.
Oui, aujourd'hui, les véhicules électriques et hybrides ne représentent que 10% des ventes, c'est même 1,5% si l'on prend que les véhicules électrique aujourd'hui sur le marché français. À cela, il faut ajouter le prix. Alors même si le gouvernement va mettre une prime de 7 000 euros, un véhicule électrique aujourd'hui d'entrée de gamme coûte au moins 30 000 euros. Donc il n'est pas accessible forcément à tous les ménages. Du coup, il y a le prix, mais il y a aussi une inquiétude sociale, car aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est 40% de pièces en moins, ce qui va supprimer des postes quoi qu'il arrive. Des reconversions sont donc à attendre. Sur ce point, Emmanuel Macron, là aussi, a demandé aux constructeurs, notamment de Renault, de tripler sa production de véhicules électriques d'ici 2022. Idem pour PSA, qui va augmenter sa production de voitures électriques, 130 000 véhicules dans les prochaines années, avec notamment la 3008 à Poissy et la DS3 sur le site de DS3 à Poissy, et la 3008 à Sochaux, bastion historique de PSA.
Hakim Kasmi, merci pour ces précisions. Dans l'actualité politique, Agnès Buzyn a mis fin au suspense aujourd'hui. L'ancienne ministre de la Santé reste la tête de liste LREM pour le deuxième tour des municipales à Paris. Elle l'a fait savoir à ses colistiers réunis en visioconférence à la mi-journée. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane, la question d'un éventuel retrait d'Agnès Buzyn se posait depuis ses déclarations fracassantes au journal Le Monde le 17 mars. Elle avait qualifié de mascarade le maintien du premier tour des municipales.
Oui, au lendemain du premier tour des municipales, Agnès Buzyn s'était écroulée, déclarant qu'il aurait mieux valu tout arrêter, que ce premier tour était une mascarade, qu'elle savait depuis longtemps que la pandémie allait arriver et qu'elle avait prévenu le Premier ministre. Les conséquences de ces déclarations ont d'abord été judiciaires. Plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre auprès de la Cour de justice de la République. Et puis, conséquences politiques également, elle était apparue comme quelqu'un qui ne supporte pas la pression et qui trahit son propre camp. D'où la question qui se posait depuis ce jour-là, le 17 mars, est-elle encore en mesure d'être la candidate de La République En Marche pour le second tour des municipales à Paris. Et tout le monde manifestement se posait la question, à commencer par l'Élysée. Emmanuel Macron s'était mis en colère suite aux propos de son ex-ministre. Au sein de ses équipes de campagne à Paris, beaucoup estimaient que ce dérapage incontrôlé était de nature à la disqualifier. Et apparemment, elle-même s'interrogeait jusqu'à il y a très peu de temps. Bien sûr qu'elle s'est posé la question, confirme deux de ses proches. Il y a ses propos du 17 mars, évidemment, mais il y a aussi le contexte. La crise sanitaire n'est pas terminée. Elle sera interrogée en tant qu'ex-ministre par les commissions d'enquête parlementaires qui vont démarrer leurs travaux au mois de juin. Elle sait que ce ne sera pas facile, confirme un candidat tête de liste d'arrondissement. Mais il y a un espace, poursuit-il, essayant de se convaincre lui-même sans véritablement cacher son désarroi. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas d'autre solution. Chercher un troisième candidat, c'était inenvisageable. Alors il faut faire avec. L'ex-ministre de la Santé a officialisé sa candidature tout à l'heure, en début d'après-midi, au cours d'une visioconférence avec ses équipes qui n'a duré qu'un petit quart d'heure. Mais cette candidature de La République En Marche à Paris ressemble désormais à un chemin de croix avec une Agnès Buzyn condamnée à monter tout en haut du Golgotha.
Stéphane Robert, merci. Toujours au chapitre politique, un dixième groupe a vu le jour aujourd'hui à l'Assemblée. Son nom, Agir Ensemble. La nouvelle formation regroupe 17 élus, des marcheurs et des centristes. Le groupe affirme maintenir son soutien au gouvernement. En attendant, les députés LREM et apparentés n'ont plus la majorité absolue à l'Assemblée. Ils ne sont plus que 281 contre 314 au début de la législature en juin 2017. Les deux mois de confinement ont donné lieu à une forte hausse des signalements des violences éducatives ordinaires. Pour lutter contre ce fléau, l'association Stop VO lance aujourd'hui une nouvelle campagne à la télévision et sur les réseaux sociaux. Le message du clip est clair. Inciter les parents à communiquer avec leur enfant plutôt que de le gifler. Cette campagne intervient un an après le vote de la loi dite anti-fessée. Margot Delpierre, vous avez vu la vidéo particulièrement émouvante.
Allez, mange, ça va être froid.
On y voit un enfant qui jette son assiette par terre.
Pourquoi t'as fait ça ?
Et une mère qui le gifle alors qu'elle aurait pu agir autrement.
T'es en colère ? Tu sais, moi aussi, ça m'arrive d'être en colère.
On a tout à gagner à faire le choix d'une éducation sans violence. Voilà le message de cette deuxième campagne de Stop VO, intitulée « Les mots que je ne te dirai pas » et qui sort près d'un an après l'adoption de la loi dite anti-fessée. Un texte surtout symbolique car il ne prévoit pas de nouvelles sanctions pénales. La présidente de l'association, Céline Kellen.
On savait, de toute façon, c'est pas une surprise que le texte de loi en lui-même et tout seul n'allait pas révolutionner les choses. C'est une première pierre qui est essentielle. Sans cette pierre, on ne peut pas continuer à avancer parce qu'on reste dans le débat d'opinion. Là, au moins, c'est très clair. L'État et la France prennent position. On ne frappe pas un enfant. Il s'agit de faire des campagnes les plus claires, les plus précises possibles et les plus efficaces pour que les parents s'y retrouvent, ne se sentent pas jugés, culpabilisés, mais se sentent concernés.
La loi ne peut pas tout, a reconnu ce matin le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. L'association lui a soumis une liste de propositions. Elle réclame notamment des formations initiales et continues pour tous les professionnels susceptibles de travailler avec les enfants pour que les termes « violence éducative ordinaire » soit connu de tous.
Margot Delpierre, merci. Quand Astérix se mobilise pour le personnel soignant, la maison de vente Arcurial a mis aux enchères aujourd'hui trois planches originales de la bande dessinée signée Uderzo. Elle proposait aussi deux planches originales de Tanguy et la Verdure et Oumpapa, deux autres BD du créateur d'Astérix. La vente a rapporté 390 000 euros, somme reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. D'une façon générale, les dons affluent pour l'hôpital confronté à la crise sanitaire. Une autre fondation, la fondation de l'APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, a ainsi reçu 41 millions d'euros. Le reportage d'Yvan Planteil.
La fondation pour l'APHP a reçu des dons financiers de plus de 40 000 personnes, directement ou par le biais de cagnottes en ligne. C'est ce qu'a fait Saato, une agence de projet liée à l'art urbain, Mouarf est l'un des deux artistes à l'origine de cette initiative.
L'objectif, c'était de partager du contenu culturel sur nos réseaux sociaux pour que les gens qui sont confinés chez eux puissent voir travailler les artistes et voir comment se construisent les œuvres qu'ils font.
Ces œuvres sont finalement vendues au profit du personnel soignant et près de 87 000 euros sont récoltés. Mais il y a aussi les dons en nature, de la crème pour les mains, de la nourriture, des chambres d'hôtel et même des appareils d'électroménager. L'entreprise Beko en a offert plus de 300 aux hôpitaux parisiens. Valérie Rousseau est porte-parole de la société.
Essentiellement des lave-linges pour laver les tenues des soignants, des sèches-linges, des réfrigérateurs pour stocker des médicaments supplémentaires, et puis des appareils de confort pour les salles de pause comme des micro-ondes, des machines à café, des bouilloires.
Toute la population a globalement donné, selon Rodolphe Gouin, le directeur de la fondation de la PHP, qui salue une catégorie en particulier.
On a également eu des dons de jeunes artistes ou de jeunes de moins de 20 ans qui se sont mobilisés. C'est une catégorie qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir encore.
Chaque année, la fondation de la PHP reçoit 5 à 6 millions d'euros de dons. C'est près de 7 fois moins que la somme récoltée pendant le confinement.
Yvan Planteil, merci. La prolongation automatique de la détention provisoire pendant le confinement est-elle conforme à la Constitution? La Cour de cassation a de sérieux doutes. Elle pointe un risque d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi la Cour de cassation a décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour répondre à la question. Cette information économique qui vient de nous parvenir, l'entreprise de prêt-à-porter Camailleux a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Lille. Camailleux emploie aujourd'hui 3900 salariés en France, dont 450 au siège social de Roubaix. Avec plus de 4000 morts pour 10 millions d'habitants, la Suède est l'un des pays au monde les plus touchés par la Covid-19. Ses voisins scandinaves, Norvège, Finlande et Danemark ont limité les pertes humaines à quelques centaines de décès. La Suède a choisi, elle, une voie singulière pour lutter contre la pandémie. Elle a refusé de confiner sa population. Ce modèle suédois fait aujourd'hui polémique dans le pays. Frédéric Faux nous appelle de Stockholm.
La Suède a un taux de mortalité globale légèrement inférieur à celui de la France. 409 morts pour 1 million d'habitants contre 436. Mais les faits sont là. La semaine dernière, la Suède a été le pays au monde où l'on avait le plus de chances de mourir du coronavirus. C'est le signe d'une tendance inquiétante. La mortalité reste sur un plateau dans le royaume nordique, alors qu'elle baisse ailleurs en Europe. Son bilan, aujourd'hui, n'est plus du tout comparable à celui de ses voisins scandinaves. Le taux de mortalité en Suède, depuis le début de l'épidémie, est 4 fois plus élevé qu'au Danemark, 9 fois plus qu'en Norvège. L'absence de confinement n'est peut-être pas la seule cause de cette situation. Des médecins pointent en effet la façon dont les personnes âgées atteintes du Covid sont laissées en maison de retraite plutôt que transférées à l'hôpital. Une enquête est en cours. Encore aujourd'hui, cependant, la ministre suédoise des Affaires étrangères a répété qu'il était trop tôt pour faire un bilan, que le pays avait choisi une stratégie visant le long terme. Mais les Suédois s'impatientent et certains, faits exceptionnels ici, sont même descendus dans la rue pour manifester.
Frédéric Faux, correspondant en Suède. Un peu partout en Europe, le déconfinement s'accélère et la question de la réouverture des frontières intérieures de l'UE devient une priorité. L'Espagne a invité aujourd'hui ses partenaires européens à fixer des règles communes pour établir la libre circulation. Hier soir, l'Italie avait défendu la date du 15 juin pour la fin des contrôles. La France et l'Allemagne ne sont pas en reste. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, et son homologue du Bundestag, Wolfgang Schäuble, lancent un appel commun à la réouverture des frontières. Bertrand Galichet, cette initiative franco-allemande n'est pas dénuée d'ambiguïté.
Cet appel ne réclame pas seulement le rétablissement de la libre circulation au sein de l'espace Schengen, il pointe aussi du doigt les lourdes conséquences de la fermeture de la frontière franco-allemande. Encore faut-il savoir à qui s'adresse cette demande, car Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, et Wolfgang Schäuble, allié d'Angela Merkel, sont des soutiens politiques de pouvoir exécutif qui détiennent la clé de leurs frontières communes. Or, c'est bien Paris et Berlin qui ont décidé cette fermeture partielle des frontières, au départ sans aucune concertation. Ces contrôles et restrictions mises en place en ordre dispersé ont vocation à se poursuivre au moins jusqu'au 15 juin, même s'il y a des assouplissements pour les frontaliers. Lors de la réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, prévue par visioconférence après-demain, les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et Horst Seehofer seront entendus sur ce sujet. mais l'appel à l'ouverture des frontières ressemble pour l'instant à un vœu pieux, au moins en ce qui concerne la France et l'Allemagne. Un affichage qui rappelle celui mis en place à la mi-mai par la Commission européenne pour une réouverture des frontières et qui n'a pas eu de grands effets. L'exemple qui vient à l'esprit est celui de la frontière franco-espagnole dont l'accès est restreint jusqu'au mois de juillet.
Bertrand Galichet, merci. La Russie renforce sa présence militaire dans la guerre civile en Libye. Moscou vient d'envoyer dans le pays au moins 4 avions de chasse. Les avions semblent destinés à appuyer les mercenaires au sol qui soutiennent les forces du maréchal Haftar. Le maréchal Haftar en grande difficulté militaire face au gouvernement national libyen, soutenu lui par la Turquie. Retour en France avec le temps demain calme et ensoleillé en raison du puissant anticyclone qui règne sur la France. Quelques nuages bas viendront perturber le ciel bleu dans le sud-ouest. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 19 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales en hausse oscilleront entre 22 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.